À l'invitation d'Origen, je me présente. Donc, je ne suis pas un bibliste ni agriculteur, mais on m'a offert une Bible quand j'étais à ma profession de foi. Et cette Bible, je l'ai lue déjà quand j'avais cet âge-là. J'ai commencé à la lire, j'ai continué à la lire. Et je crois que j'ai lu la Bible. Ouais, toute ma vie, en vrai. Alors, mon métier, je suis écologue et ingénieur agronome. Donc, l'écologue, c'est comme un médecin qui soigne, non pas les humains, mais les écosystèmes, c'est-à-dire les ensembles de vivants, qui sont en relation les uns avec les autres. Et parmi ces vivants, bien entendu, de plus en plus, sur la planète, il y en a un bipède qui est très présent et qui interagit beaucoup avec les écosystèmes, parfois en bien et parfois c'est moins évident. Je suis également élu dans ma commune de 500 habitants, aujourd'hui, et en charge des questions d'environnement dans cette commune, ainsi que à le niveau de du pays Loire-d'Ours, qui regroupe 48 communes, où j'ai également une responsabilité dans le domaine de l'environnement. Voilà, donc le sujet de ce soir, c'est quand la Bible nous parle d'agriculture. Et j'ai envie de dire, j'ai de la peine avec ce titre, parce que la Bible ne nous parle pas d'agriculture. La Bible, eh bien, bien sûr, elle se passe dans un contexte rural. Elle se passe avec des gens qui sont assez souvent des éleveurs, assez souvent des cultivateurs. Certains sont sédentaires, d'autres sont nomades. Donc, la Bible est peuplée de ce contact avec la terre, avec la nature, avec des humains qui vivent dans cette nature. Alors, on m'a donné un livre qui a été écrit par un protestant qui s'appelle Les plantes de la Bible. C'est un gros bouquin. Il y a plus de 200 plantes qui sont décrites avec énormément de détails. Donc, et avec le nom hébreu et tout, donc, il n'échappe à rien du tout. Et donc, c'est dire à quel point tous ceux qui ont voulu s'intéresser aux sources, je dirais, biologiques de la terre d'Israël ont eu largement de quoi s'occuper. Et moi-même, je suis allé plusieurs fois en Israël et j'étais émerveillé de la nature. Israël est une terre qui fait comme un isthme dans lequel vous avez d'un côté le grand continent de l'Afrique. De l'autre côté, le grand continent Inde et Chine, et puis une quantité d'espèces, notamment des oiseaux, traversent ce pays. Et quand j'étais enfant, quand j'ai eu le catéchisme, tout ça, on a oublié de me dire que sur le lac de Tibériade, au printemps, il y a plusieurs milliers de pélicans qui sont sur ce lac, et une quantité d'autres espèces d'oiseaux. Donc, c'est dire à quel point la nature et Israël sont vraiment quelque chose d'extrêmement entremêlé. Donc, la Bible ne nous parle pas d'agriculture. Pourquoi? Il me semble, je parle bien sûr sous votre contrôle, elle ne nous parle pas d'agriculture, elle nous parle de Dieu. Et, en fait, à force de rentrer dans cette logique de la Bible, alors à ce moment-là, en découvrant Dieu, en cheminant et en se laissant instruire par la présence de Dieu que l'on trouve dans la parole de Dieu, eh bien, ça peut impacter notre manière de vivre, notre manière de cultiver, notre manière de nous nourrir, notre manière de voir la nature, de voir le sol, etc. Donc, dans la Bible, il y a une espèce d'unité qui se dégage de cet appel spirituel, de cette découverte spirituelle unique qui a fait ce peuple juif. Et qui s'ouvre en fait peu à peu, c'est une histoire, qui s'ouvre peu à peu à la présence de ce Dieu inconnu, ce Dieu qui apprend à connaître à travers une multitude d'événements, d'événements parfois joyeux, mais parfois aussi très douloureux. Et ce Dieu qui se révèle à ce peuple, c'est un Dieu créateur, hein, Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et ce Dieu créateur, eh bien, il enseigne à ce peuple quelque chose, c'est que la terre créée, eh bien, elle est bonne. Et elle est, même quand on parle de l'humain qui vit sur la terre, elle est très bonne. Donc ça, c'est ce qui est dit dans le livre de la Genèse, au tout début. Et donc, cette création bonne, qui nous nourrit et qui est elle-même donnée par Dieu, c'est toute la pédagogie de la Bible que nous allons essayer d'aborder ce soir. Alors, le peuple juif, donc, à cette époque, eh bien, il est, donc, comme on disait tout à l'heure, sous cette espèce de dysme, qui est, on va dire, la prolongation de la grande dorsale africaine, qui est, qui va du nord au sud de l'Afrique et qui se prolonge par la mer Rouge, par la mer Rouge et par la mer Morte, et qui arrive jusqu'aux confins du nord de l'État d'Israël. Eh bien, si bien qu'il y a effectivement beaucoup de ces oiseaux et plein d'autres animaux, notamment des papillons et toutes sortes, qui fréquentent cette terre, et il n'y a pas que les papillons et les oiseaux, il y a aussi, évidemment, des envahisseurs. Hein. Il y a à l'est l'Empire perse, à l'ouest, il y a l'Empire égyptien. Et donc, le peuple juif est ballotté, en fait, pendant toute son histoire, par cette pression qui s'exerce par la domination successive, et puis ensuite, après, sont venus les Romains, etc. Hein. Et donc, le peuple juif a connu, en fait, tout au long de son existence, des crises très difficiles à vivre. Et il a essayé de les vivre en sortant par le haut, en fait, hein, en ne restant pas écrasé. Il y a une sorte de résilience qui se trouve dans ce peuple. Et cette résilience, eh bien, elle a donné naissance à la vie, en fait. Elle a donné naissance à cette espèce de force qui est une force d'espérance devant des situations qui semblent sans issue, qui semblent désespérées. Eh bien, ce peuple, il a rebondi. Il a vraiment cette espérance du peuple juif, quelque chose dont aujourd'hui nous avons à nous inspirer peut-être encore aujourd'hui, parce que eh bien, les crises ne sont pas l'apanage de l'histoire ancienne, hein, on les connaît encore aujourd'hui. Et je voudrais parler justement de ce monde agricole qui aujourd'hui, eh bien, il est aussi lui-même dans une situation qui est, en France en tout cas, de médiocre reconnaissance. L'opinion publique, manipulée sans doute par quelques médias, ne comprend pas ce monde agricole qui est ballotté d'une part par le climat, frappé de plein fouet par l'exode rural, hein, qui crée des situations de solitude incroyables, et aussi avec une incompréhension d'une société qui n'arrive pas à comprendre ces gens qui vivent au contact avec la nature et qui, de ce fait, ne sont pas dans toute cette logique de sécurité, dans cette logique de préjudicabilité que nos sociétés voudraient nous faire considérer comme étant la loi normale. Cette espèce de changement dans lequel le monde agricole est confronté, c'est des sécheresses, c'est des années trop humides, c'est des années où ce sont le cours des produits agricoles, et puis c'est même parfois les guerres qui vont encore en plus passer quelque chose de très difficile à vivre dans ce contexte. Voilà. Et donc, ce monde agricole, aujourd'hui, me semble-t-il, alors, j'avais pensé m'adresser à une assemblée d'agriculteurs, mais en fait, non. Hein. Si, il y a des agriculteurs parmi vous. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, quand même. Eh bien, ce monde agricole, aujourd'hui, moi, je ne suis pas agriculteur, donc je ne vais pas me mettre dans la peau d'un agriculteur, mais il m'arrive aussi, moi, de connaître des crises. Hein, donc, je suis en ce moment, dans ma commune, confronté à une situation assez tendue, hein, arriver à faire face à ces choses-là. Hein. Eh bien, l'espérance du peuple juif m'instruit. Elle me donne une certaine force. Et je pense que, pour beaucoup d'agriculteurs, cette foi, cette espérance qui habite c'est dans le cœur de beaucoup d'agriculteurs, est une force. Et cette force-là, elle permet de durer, elle permet d'imaginer, elle permet d'avancer sans être détruit par ces événements. Alors, il est vrai que le monde agricole aujourd'hui est un de ces mondes où on se suicide le plus, beaucoup de choses sur ce monde agricole. Et en même temps, moi, je suis toujours frappé de l'espérance extraordinaire que je trouve dans ce monde agricole qui va partir semer, faire des semailles, alors que peut-être il va y avoir de la sécheresse, peut-être qu'il va y avoir ce type-là, et puis finalement, eh bien, ils y vont, et finalement, bah, ça permet quand même à ces personnes de vivre, et puis, par eux, à beaucoup d'autres personnes aussi, de vivre, pas tout simplement par le fait que nous avons la baguette et autre chose encore, et quand même on met des graines de pavot dans les baguettes, alors ça, c'est encore meilleur. Voilà. Alors donc, il s'agit dans cette Bible de comprendre comment on peut se laisser instruire par cette parole, qui est la parole de Dieu, face aux tribulations et aux inquiétudes de notre époque, qui sont des divisions sociales, des guerres civiles plus ou moins larvées, des guerres, la crise écologique, etc., qui, si on y réfléchit bien, il y a de quoi taper la tête contre les murs. Hein. Il y a de quoi être angoissé. D'ailleurs, beaucoup de jeunes aujourd'hui, on le dit, sont angoissés devant ces situations. Et moi, je voudrais peut-être vous dire un peu, parce que je parle un peu comme témoin d'une certaine façon, en quoi la Bible peut être une force qui peut aider à grandir et à tenir et à être debout, alors même qu'on s'est pris des claques. Voilà. Alors, cette Bible, donc, elle nous invite à une démarche de foi, hein, elle nous invite à une démarche d'espérance. Quand tout est perdu, croire encore que quelque chose est possible. Et puis, cette démarche de foi, eh bien, c'est quelque part une certaine confiance qu'il y a un Dieu que l'on ne peut pas bien saisir, on ne peut pas connaître par nous-mêmes, mais qui se manifeste à nous, qui se révèle à nous. Comment ce Dieu, eh bien, qui est un Dieu caché, qui est un Dieu qui parle dans la brise légère, hein, quand on voit le prophète Élie dans le désert, hein, ben, c'est pas dans le tremblement de terre, c'est pas dans la tempête, c'est dans la brise légère que ce Dieu lui parle. Alors même que lui-même, Élie, est en train de fuir la reine Jézabel qui veut avoir sa peau. Hein. Alors donc, dans cette Bible, eh bien, il y a une pédagogie. Et cette pédagogie, eh bien, elle s'inscrit d'abord dans une démarche que je pourrais qualifier prophétique, qui est cette démarche du père des croyants, qui est la démarche d'Abraham. Abraham, eh bien, il entend quelque chose qui lui dit « quitte ton pays, quitte ta famille, et va vers le pays que je vais t'indiquer ». Et donc, eh bien, Abraham, il va quitter son pays et il va oser se lancer dans l'inconnu. Alors, une fois qu'on a commencé à quitter, hein, c'est une aventure qui commence, on ne sait pas où elle va déboucher, on ne sait pas quels seront les événements qui nous attendent, heureux ou malheureux. Et cet Abraham, bien, il va essayer effectivement de prendre possession de cette terre que Dieu lui indique. Et il va avec un autre de sa famille qui s'appelle Lot. Et ensemble, ils vont cheminer. Et puis, à un moment donné, eh bien, ils s'aperçoivent que la terre est, ça se passe pas bien entre les élevages de l'un et les élevages de l'autre, les troupeaux. Hein. Et donc, comment faire? Les bergers disputent, etc. Donc, il faut se partager la terre promise. Et donc, Abraham laisse à Lot le soin de faire son choix entre la montagne, qui est une montagne séchante, une montagne qui est celle sur laquelle se trouve aujourd'hui la ville de Jérusalem, à l'époque, on n'en parle pas encore, et sur cette montagne, il y a évidemment c'est rocailleux, c'est monté, et puis de l'autre côté, quand on regarde vers l'est, eh bien, il y a cette plaine avec le Jourdain, qui se jette dans la mer Morte, hein, et cette plaine du Jourdain, elle est verdoyante, elle est belle, elle est séduisante. Et finalement, Lot va choisir la partie qui est la plus humide, la partie avec le fleuve qui vient approvisionner au quotidien, et donc qui permet finalement de gérer sans trop se poser de questions, si je puis dire, alors que Abraham, lui, il lui reste la montagne. Et à la montagne, eh bien, il faut être nomade parce que les endroits sont secs, les endroits, l'air ne pousse pas comme on voudrait. Et en plus, eh bien, il faut être constamment sur le qui-vive, etc. Et donc, Abraham, sans le savoir, a opté pour quelque chose qui l'a aidé dans sa pédagogie, la pédagogie de la terre, la pédagogie de la montagne, l'a aidé à imaginer un autre possible, une autre manière de voir, et je dirais que la démarche de la Bible s'inscrit dans cette espèce d'ascène, on va dire, cette espèce de confrontation avec un milieu pas forcément favorable au plan de la facilité de vie, et Abraham a réussi à construire quelque chose qui lui a permis de vivre et de se développer, et finalement, à terme, d'être à l'écoute de cette promesse de Dieu qui lui a dit « quitte ton pays, quitte ta famille, et tu seras le père, tu deviendras le père d'un grand peuple, on pourra les compter comme le sable de la mer. » Donc, quelque part, eh bien, sans le savoir, sans doute, Abraham a fait le bon choix en choisissant cette montagne par défaut, parce que c'est en réalité l'autre qui l'a amené à faire ce choix. Alors, dans la pédagogie de la Bible, alors, il y a tout un ensemble d'événements qui amènent en fait le peuple qui accompagne donc Abraham à cet questionnement de qui est Dieu? Et qu'est-ce qui n'est pas Dieu? Et à un moment donné, eh bien, on s'aperçoit que Dieu, c'est le tout autre. C'est celui qui est plus grand que, celui qu'on ne peut pas définir, celui qu'on ne peut pas nommer, mais qui nous invite à grandir, qui nous invite à nous laisser interpeller par quelque chose qui n'est pas écrit d'avance. Et vers lequel on est en recherche, on est en chemin. Et donc, ce Dieu-là, il a un ennemi radical, c'est les dieux faciles, qui sont facilement identifiables et qu'on peut représenter. Hein. Et donc, ce sont les idoles. Alors, les idoles, eh bien, c'est David a des quantités de passages extrêmement crus pour parler des idoles, en disant un homme trouve un morceau de bois, il y a des nœuds, il le trouve assez joli, il prend sa hache, il le taille, il en fait une figure humaine, il met de la peinture dessus, et puis ensuite après il l'accroche bien au mur pour être sûr qu'elle se casse pas la gueule parce que Est-ce que forcément, un morceau de bois, il faut le tenir, sinon, bon. Et puis, il lui dit, tu es le Dieu de qui nous dépendons et qui va nous donner tout, etc. Et donc, constamment, ce peuple va être en permanence entre un choix d'idole, donc un dieu facile, un dieu qu'on se représente, un dieu qui est sécurisant, un dieu utile, hein, et ce dieu qu'on ne connaît pas, mais qui se révèle à nous et qui veut nous faire grandir. Et donc ça, c'est une pédagogie qui est constamment, le peuple est constamment sur cette espèce de fracture entre le vrai Dieu, on ne connaît pas, il n'est pas sécurisant, il nous appelle à aller plus loin, il nous appelle à être avant, et puis les idoles, hein, qui nous finalement conduisent nulle part. Voilà. Et donc, cette pédagogie-là, elle est omniprésente. Elle passe évidemment par des grandes phases de colère, hein, parce que, à un moment donné, comme vous le savez, à un moment donné, le peuple juif a quitté, qui était un temps maintenu en captivité, en esclavage au pays d'Égypte, donc était emmené par Moïse dans le désert, et Moïse, eh ben, il est le guide de son peuple, et en même temps, Moïse, il est en permanence appelé par Dieu dans la montagne pour arriver à grandir lui aussi et entendre ce que Dieu lui demande pour son peuple. Et le peuple trouve le temps long, hein, il trouve que Moïse il est bien absent et que voilà, hein, ça commence à rien faire. Alors, eh ben, on va se trouver au moins un Dieu qu'on peut se présenter, et celui-là au moins, hein, il ne sera pas comme celui de Moïse qui est tout embarré dans la montagne. On va avoir un vrai Dieu dont on va pouvoir se servir. Et on prend les boucles d'oreilles, tout ce qui est en or, on coule tout ça et on fait un veau d'or. Et ensuite, après, et une fois qu'on a fait le veau d'or, on fait une grande fête et on danse, c'est toute une grande joie. Et à ce moment-là, Dieu dit à Moïse dans la montagne, écoute, ce peuple, il commence à me gonfler. Vous voyez, donc, c'est constamment. Et donc, Moïse descend, évidemment, il casse le veau d'or, etc. Vous connaissez l'histoire. Donc, voilà un des éléments de cette pédagogie de conversion qui est très, très présent dans la Bible et qui nous interpelle à nous aujourd'hui, maintenant, et qui, aujourd'hui, dans la manière dont nous vivons, eh bien, ça nous amène à évidemment nous poser des questions. Alors, dans cette pédagogie, il y a un élément qui est très important et sur lequel j'aimerais prendre un petit peu plus de temps. C'est ce qu'on appelle le Shabbat. Alors, le Shabbat, c'est quoi? Eh bien, c'est normalement ce jour de la semaine, un jour par semaine, où le peuple est invité à ne pas travailler et à prendre le temps de se mettre à l'écoute de Dieu. Et cette pédagogie du Shabbat, eh bien, elle a une dimension qui est d'abord à la semaine de la semaine, hein, donc d'une certaine façon, elle concerne moyennement l'agriculture, hein, parce que l'agriculture, à part les, je sais pas si c'est des cultures qui se gèrent à la fin de la semaine, mais non, la pédagogie du Shabbat, elle se gère à l'année, hein, c'est-à-dire qu'il y a tous les 7 ans, une année sabbatique, c'est-à-dire dans laquelle l'homme est invité à ne pas enfoncer la terre, à ne pas et à remettre aussi les dettes. Enfin, il y a toute une démarche de cette année sabbatique. Et puis il y a encore une autre échelle. Il y a le jubilé, hein, qui est tous les 7 fois 7 ans, hein, qui est donc 49 ans. Et donc, ce Shabbat, eh bien, il est fortement ancré dans la culture rurale et agricole de la ville. Alors, pour cela, il faut ouvrir la Bible. Alors, je ne vais pas apporter ma Bible, mais vous savez, à notre époque, la voilà ma Bible. Bien. Ceci dit, je l'ai quand même écrit sur un papier. Il y a un livre qui est généralement assez peu connu, qui s'appelle le livre du Lévitique. C'est un livre qui vient juste après l'Exode, hein, donc il y a la Genèse, l'Exode, le Lévitique. Et dans ce Lévitique, eh bien, il est décrit tout un ensemble de démarches, de règles que le peuple juif entend de Moïse lorsqu'il est dans le désert, c'est-à-dire ayant quitté l'Égypte, conduit par Dieu, donc, et sous la houlette de Moïse, de Aaron, eh bien, ce peuple juif reçoit régulièrement de Moïse un enseignement. Donc, voilà, le Seigneur parle à Moïse et il dit, parle aux fils d'Israël. Tu leur diras, les solennités du Seigneur auxquelles vous convoquerez les fils d'Israël sont des assemblées saintes. Voici ce qui concerne les solennités. Pendant 6 jours, on travaillera, mais le 7e jour sera un sabbat solennel, jour d'assemblée sainte. Vous ne ferez aucun travail. C'est un sabbat pour le Seigneur, partout où vous habitez. Donc, ça, c'est un peu le socle qui était un peu la démarche du sabbat. Et un peu plus loin, toujours dans le même chapitre 23 du Lévitique, le Seigneur parla à Moïse et dit, parle aux fils d'Israël, tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre moisson. Et suite à cette première phrase, suivent 12 versets qui décrivent de manière extrêmement précise, je dirais presque quasiment mathématique, ce qui doit être fait à partir du moment où on commence un moisson. Eh bien, on apporte au prêtre la première gerbe de votre moisson. Donc, cette première gerbe, on la présente au Seigneur. Ensuite, le prêtre, alors c'est le prêtre qui la reçoit, et le lendemain du sabbat, le prêtre fait la présentation de cette gerbe qu'il a reçue. L'offrande se fera, alors, précise, hein, c'est pas la première gerbe, il va y avoir une offrande qui sera faite avec, d'une part, le sacrifice d'un agneau, et ensuite, de la fleur de farine pétrie à l'huile, et ainsi que du vin, une libation de vin, et les personnes qui offrent cette gerbe, cette prémisse de la moisson, ne doivent pas manger de pain, ni d'épis de millet, ni de grains frais moulus avant le jour où vous faites ce don, avant d'avoir apporté ce présent qui est réservé à votre Dieu. Ceci est un décret perpétuel pour toutes vos générations, partout où vous habitez. Et ensuite, à partir du lendemain du sabbat, le jour où vous aurez donc apporté votre gerbe avec le geste d'élévation, vous compterez 7 semaines entières, dont 49 jours. Le lendemain du 7e sabbat, ce qui fera 50 jours, vous présenterez au Seigneur une nouvelle offrande. Vous apporterez de chez vous 2 pains à offrir avec le geste d'élévation, chacun de 2/10 de fleurs de farine, puis au levain, en prémisse pour le Seigneur. De même, avec le pain, ils apportent également des agneaux de l'année, sans défaut, des pains taureaux, des béliers, une libation avec du vin, et vous ferez aussi un sacrifice avec un bouc, qui est un sacrifice avec le bouc, qu'on appelle une serre. Voilà. Et le prêtre offre tout ceci, les agneaux, le pain des prémices, ce sont des choses simples pour le Seigneur et qui reviendront au prêtre. Ce même jour, vous convoquerez les fils d'Israël, ce sera pour vous une assemblée sainte, vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage, c'est un décret perpétuel pour toutes vos générations, partout où vous habitez. Et ce passage se termine par un ultrage curieux, qui semble n'avoir aucun rapport avec tout le texte dont on vient de parler, qui est éminemment cultuel, quelque chose de liturgique. Et tout à coup, lorsque vous moissonnerez vos terres, tu ne moissonneras pas jusqu'à la lisière du champ, tu ne ramasseras pas les glanures de ta moisson, tu les laisseras aux pauvres et à l'immigré. Je suis le Seigneur votre Dieu. Donc, il y a quelque chose qui ont laissé penser à des exégètes, des gens qui sont chargés de scruter ces textes de la Bible. Certains se sont dit, ah, mais oui, c'est évident que là, on arrive au moment de la moisson, c'est le moment où les grains commencent à être recueillis, etc. C'est aussi le moment de penser aux pauvres. Et donc, l'écrivain a inspiré va prendre cette phrase et il l'insère dans un texte, même si c'est pas, ça semble pas coller avec l'ensemble du texte. Et en réalité, cette explication-là, pour toutes sortes de raisons, n'est pas la bonne explication. La bonne explication, elle vient de la structure même du texte, qui est que les textes de la Bible sont tous sauf des textes qui sont écrits comme ça au fil de la plume. Ce sont des textes extrêmement construits, dans lesquels des phrases d'un début de chapitre se retrouvent à la fin du chapitre. Et on a une grande similitude entre les phrases du début et les phrases de la fin. Ainsi, la phrase du début que je vous ai lue tout à l'heure, quand vous serez rentré dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre moisson. Ça, c'est la première phrase. Et la dernière phrase, lorsque vous moissonnerez vos terres, tu ne moissonneras pas jusqu'à la lisière du champ, tu ne ramasseras pas les glanures de ta moisson, tu les laisseras aux pauvres et à l'immigré. Je suis le Seigneur votre Dieu. Et si l'on analyse bien ces deux phrases, elles se ressemblent extrêmement fortement, parce qu'elles ont à la fois, elles décrivent un moment, elles décrivent quelque chose qui concerne la terre, elles parlent de Dieu, elles parlent d'une activité à accomplir, elles parlent d'un don à faire, et elles parlent de la personne à qui il faut faire ce don. Et dans la première phrase, il s'agit bien sûr d'un don fait à Dieu, et dans la dernière phrase, il s'agit d'un don fait aux pauvres. Et il y a un parallélisme important entre ces deux textes, et il y a donc une invitation qui est faite au peuple à servir Dieu d'un côté et à servir le pauvre de l'autre. Servir Dieu par l'apport des prémices de la moisson, servir le pauvre par l'apport des glanures qui sont laissées exprès, intentionnellement, sur le champ. Et là, il y a une pédagogie derrière ces deux phrases, qui est une pédagogie qui est que quand le peuple qui est dans le désert, qui entend cet enseignement de Moïse, va se retrouver dans la terre promise, peut-être que l'égoïsme va finir par reprendre le dessus. Et peut-être que les gens, ils vont voir la moisson, et puis ils vont essayer d'en avoir un peu plus, et puis un peu plus, et puis un peu plus. Et à un moment donné, l'égoïsme l'emporte. Alors que là, la pédagogie dit, avant même de manger quoi que ce soit de ta moisson, tu apportes quelque chose à ton Dieu. Et puis, à la fin, quand tu as fini les moissons, tu laisses aux pauvres une grande partie. Et dans cette pédagogie, il y a quelque chose d'extraordinairement riche. Parce que, évidemment, quand on récolte, on est heureux de récolter. Ou on est heureux, et puis en temps, on a peur du manque. Hein. On est content d'en avoir plus, forcément. Et, justement à ce moment-là, le texte dit « Pense à Dieu, pense aux pauvres ». Ensuite, il suffit pas de penser à Dieu et penser aux pauvres, mais il faut aussi respecter quelque chose qui est un temps qui est fixé par Dieu et qui s'impose à nous. Comme on dit, nous n'avons pas à choisir. Ce temps, il est fixé par Dieu et il est fixé en calculant des jours. Hein. Il compte 49, on compte 49 jours, hein, c'est du précis, hein, c'est pas, voilà. Et donc, ce comptage de jours, évoque évidemment la création, hein, c'est-à-dire Dieu qui a créé pendant 6 jours et le 7e jour, ce sont évidemment des journées symboliques, évidemment, hein, mais suspend son œuvre et Dieu se retire quelque part de cet acte de création. Et il y a un parallélisme entre la démarche temporelle du sabbat et la démarche de Dieu. Et donc, nous, humains, à l'image de Dieu, nous sommes invités à faire pareil. Et donc, en même temps que tu récoltes, eh bien, tu renonces au bénéfice immédiat de ta récolte, tu suspends ton travail. Tu peux contempler l'œuvre de Dieu, parce que ce qui pousse dans le champ, c'est pas toi qui le fais pousser, c'est Dieu qui le fait pousser. Et c'est Dieu qui fait croître sa moisson. Et puisque Dieu est bon à mon égard, en faisant croître ma moisson, moi aussi je dois l'être envers Dieu et envers mon prochain. Donc, le sabbat est une mémoire de la création d'un côté, et en même temps, il nous sauve de notre dépendance, nous, l'homme, la femme, sa famille, son serviteur, sa servante, son bétail, donc ça, cette liste-là, et même des bêtes sauvages. Cette liste-là, elle est nommée 2 chapitres plus loin dans le même livre du Lévitique, au chapitre 25 et 26. Et donc, le sabbat a un côté rédempteur, un côté salvateur. Il sauve l'homme de sa dépendance par rapport au travail, de sa dépendance par rapport aux impératifs de la productivité. Et du coup, il permet à l'homme de conquérir une certaine liberté par rapport à cet esclavage qui peut devenir un esclavage. Bien sûr, ça n'est pas une négation du travail. Hein, il y a bien les 6 autres journées, il faut travailler. Mais cette 7e journée-là, non, on ne travaille pas. Et donc, ce sabbat empêche une forme d'idolâtrie qui est le propre pouvoir créateur de l'homme. Il manifeste que le processus économique ne dépend pas que de l'homme, mais il dépend aussi de Dieu. Et que la finalité du processus économique n'est pas seulement de satisfaire les besoins de l'homme, mais aussi, il manifeste que il y a don à Dieu, il y a don aux pauvres, et donc deux seigneurs à honorer, le Seigneur Dieu et le Seigneur pauvre. Et donc, cette pédagogie, elle s'étend non seulement à la semaine, non seulement aux 49 jours, en fait, c'est pas la première fête des moissons, de la deuxième fête des moissons, qui est en fait la Pentecôte, hein, hein, qui s'appelle, je cherche le nom, Shavuot, hein, en hébreu, hein, ça veut dire Pentecôte, ça veut dire 50, hein, en grec, Pentecôte, 50. Donc, 50 jours après le premier jour de la moisson, a lieu la Pentecôte. Alors, le sabbat, eh bien, en réalité, imprime toute la Bible. La pédagogie du sabbat imprime toute la Bible. Parce qu'elle fixe les temps et elle fixe aussi la manière dont nous concevons la terre, dont nous concevons notre environnement. Et la terre, eh bien, voilà, on pourrait penser que le sabbat hebdomadaire, bon, ça va, quoi, c'est comme le dimanche, ok, on ne travaille pas, bon. Mais en réalité, par l'année sabbatique, on arrive à une dimension beaucoup plus collective, beaucoup plus solidaire, beaucoup plus globale, et qui conduit, par exemple, à remettre des gens qui ont été achetés. Hein, à l'époque, il y avait un esclavage, quand quelqu'un ne pouvait pas rembourser ses dettes, on l'achetait, et au terme des 7 années du déroulement du cycle de 7 ans, les esclaves étaient libérés. Et même, il y avait tout un calcul pour que, quand on mettait en esclave une personne la première année, ça coûtait plus cher que quand on prenait une personne la 6e année. Hein, parce que, évidemment, on avait moins de retour sur investissement, si je puis dire. Voilà. Alors, et la découverte un peu de cette démarche sabbatique au niveau de l'année et au niveau des cycles de 7 ans et des cycles de 49 ans, c'est que la Terre devient un partenaire qui fait partie de la relation entre Dieu et l'homme. Donc, c'est pas un paysage qui sert de cadre pour faire joli. C'est pas non plus quelque chose qu'il faut réussir à exploiter jusqu'à la dernière goutte. La Terre, c'est comme un être vivant. Elle doit chômer. Ça, c'est le chapitre 25 et 26 du Lévitique. Elle doit chômer. Elle peut aussi refuser de produire. Elle peut aussi donner du fruit en abondance, en particulier quand on arrive à la 48e année, hein, donc là, ou bien déjà la 6e année d'un cycle de 7 ans, ou la 48e année d'un cycle de 49-50 ans. Hein. Alors, déjà, la 6e année, Dieu dit à son peuple, vous n'inquiétez pas, la 6e année, la terre va produire 2 fois plus. Et donc, vous n'aurez quoi manger. La 7e année, vous ne récolterez rien, vous ne sèmerez rien. Vous laisserez la terre chômer. Ça, c'est le principe. Et puis, quand on arrive à la 48e année, eh bien, c'est pas sur un an que la terre doit se préparer à produire, mais sur 3 ans, hein, puisqu'il faut nourrir la 48, la 49 et la 50, hein, pour l'année. Et donc, on est devant une terre qui est en réalité une manière d'inviter l'homme à s'abandonner à la providence de Dieu, ce qui semblait très compréhensible pour le peuple juif qui était dans le désert, puisqu'il sauvait tous les jours la main, hein, dans le désert. Hein. Et puis le sixième jour, eh bien, il y avait double ration de manne pour pouvoir ne pas avoir besoin de ramasser la manne le jour du sabbat. Hein. Donc, eh bien, donc le peuple était habitué à cet abandon à la providence divine. Hein. Et donc, dans l'enseignement porté par cette notion de sabbat, eh bien, on manifeste que le peuple est abandonné à la providence divine. Et donc, si l'homme n'obéit pas à la providence divine et prive la terre du sabbat, la terre saura bien se venger. Et donc, elle fait partie, comme dit, comme un vivant, de ce cycle homme, terre, Dieu. Dieu, homme, terre. Il y a constamment cette relation. Voilà. Et donc, la relation juste à la terre, c'est plutôt une grâce que l'homme doit accueillir plutôt qu'un acte d'obéissance. Et il est précisé donc, dans ce chapitre 25 de Lévitique, le sabbat de la terre sera pour vous en nourriture, pour toi, ton serviteur, ta servante, le salarié et résident temporaire, les immigrés, ton bétail et ajoute même les animaux sauvages. Donc, peut-être profiter de cette occasion pour parler d'une petite anecdote. Donc, j'ai travaillé comme écologue en relation très souvent avec le monde agricole. Et donc, dans une zone de céréaliculture, de culture intensive, que certains d'entre vous connaissent, entre Tours et Loches, dans l'Indre-et-Loire. Et dans cette terre, eh bien, il y a une zone qui a été classée Natura 2000. En gros mot, c'est en fait des mesures financées par l'Union européenne et l'État français pour dédommager des agriculteurs qui ont le choix de ne pas cultiver toute leur surface, mais d'en maintenir une partie à l'abri de tout travaux des champs qui pourraient gêner la reproduction des oiseaux que l'on appelle oiseaux de plaine. Donc, pour pouvoir préserver les oiseaux de plaine, l'agriculteur bénéficie d'une subvention qui vient en compensation de l'effort qu'il fait, du fait qu'il ne met pas en culture cette surface, c'est une forme de jachère. Et il se trouve que j'allais donc assez régulièrement à des réunions pour animer cette zone, comme consultant, comme écologue. Et je faisais assez souvent la route avec des personnes qui sont de l'ADREAL. L'ADREAL, c'est la Direction régionale de l'environnement. C'est l'instance du ministère de l'Environnement qui dépend du préfet de la région centre. Et donc, leurs bureaux sont à Orléans, même prendre à Beaugency. Et on causait dans la voiture. Et je sentais qu'il y avait quand même une réticence, quoi, des gens. C'est quand même bête, quoi, de mettre de l'argent, pour inciter les agriculteurs à pas cultiver, quoi. C'est pas efficace, c'est pas performant, quoi. J'avais eu le même son de cloche quand j'ai fait un travail pour aider les gens du ministère de l'Agriculture à travailler, sur le développement durable. J'avais eu les mêmes remarques. Ah non, ces mesures environnementales. Ça coûte. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment bien? Et alors, ces gens de l'ADREAL, je leur dis, écoutez, ces choses-là sont pas nouvelles. C'est déjà contenu dans un livre qui a été écrit en 600 ans, ou 6 ou 700 ans avant Jésus-Christ, qui s'appelle le livre du Lévitique. Et alors, à ce moment-là, ils m'ont regardé avec des yeux en disant, mais il fume la moquette. Voilà, hein. Donc, c'est dire que c'est pas gagné, hein. Et cette histoire de savate, évidemment, aujourd'hui, ça teinte de plein fouet, notre rationalité moderne. On aurait envie que tout ça puisse se gérer autrement. Et, on s'aperçoit que finalement, là, on est dans quelque chose de complètement, qui semble fou, quoi. Mais, on est dans une démarche, qui est une démarche de relation. Justement, entre ces trois partenaires, l'homme, la terre, Dieu, et cette démarche-là, finalement, est-ce qu'elle a à nous instruire aujourd'hui? Alors, c'est un peu la dernière partie de mon exposé, parce que je vous ai parlé longuement de la Bible, parce que finalement, faut-il parler d'agriculture? Je vous ai quand même un peu parlé d'agriculture. En fait, depuis 2000 ans, l'Église, qui est un peu quelque part, se considère un peu héritière de toute cette démarche de la Bible, hein, réfléchit, elle est confrontée à des événements nouveaux, hein, au fil des siècles. Et en 1890, il y a un pape qui s'appelait Léon XIII, qui était confronté, comme tous les gens à cette époque, à quelque chose qui était absolument inouï. C'était la séparation du capital et du travail, et on avait affaire à des gens qui n'avaient que leur force de travail à vendre et qui finalement devenaient des prolétaires, c'est-à-dire qu'ils n'avaient que toute richesse à transmettre à leurs enfants que leurs enfants. Hein. Ils n'avaient pas d'argent, pas de capital à transmettre. Et donc, le pape Léon XIII, avec un certain nombre de personnes qui ont travaillé depuis bien avant le pape Léon XIII sur ces questions, a rédigé une lettre, une encyclique, qui s'appelle Rerum Novarum. Ça veut dire donc des choses nouvelles. Et Rerum Novarum a été imposé la première pierre d'une réflexion qui se poursuit encore actuellement, qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Et la doctrine sociale de l'Église, eh bien, elle nous concerne tous et elle concerne aussi toutes nos activités, et en particulier nos activités économiques et, par nécessité, évidemment, l'agriculture. Et donc, il y a une grande cohérence entre ce que je vous ai lu de ce livre du Lévitique, mais pas seulement, évidemment, il y a bien d'autres passages de la Bible, et cette doctrine sociale de l'Église, que l'on pourrait résumer en disant il y a en gros 8 principes qui font que, à travers ces principes, on risque, si on les suit bien, de pas trop s'écarter de quelque chose qui est juste et qui permet de garder son cœur ouvert à ce Dieu qui nous invite à grandir et nous invite à le faire de manière juste et bonne. Le premier de ces principes de la doctrine sociale de l'Église, c'est la dignité inaliénable de la personne humaine. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas considérer un être humain ni comme une chose, ni comme une marchandise, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la dignité, c'est le premier principe de la doctrine sociale de l'Église. Le deuxième principe, c'est le bien commun. C'est-à-dire que le bien individuel n'est pas mauvais en soi, mais s'il nuit au bien de l'autre, il devient mauvais. Et donc, ensemble, nous avons à rechercher ce bien commun qui permet à ce que les avantages des uns, les inconvénients des autres puissent se compenser et aller dans un sens de justice et que l'ensemble puisse bénéficier du travail de tous. Donc, le bien commun. Le troisième principe, c'est la subsidiarité. La subsidiarité, ça veut dire tout simplement que c'est celui qui est le plus près du terrain, qui a la juste valeur, la juste appréciation du problème à résoudre. C'est seulement quand ce problème à résoudre le dépasse que c'est à un échelon supérieur que ce problème doit pouvoir être résolu. Donc, si, par exemple, vous êtes devant un problème de, de difficulté à traverser la rue, par exemple, bon, ben, le problème à résoudre, c'est peut-être que vous allez choisir un endroit où il y a un passage piéton, etc. Bon, puis si ça se trouve, les passages piétons ne servent à rien parce que les voitures roulent comme des malades, et donc, il faut mettre des ralentisseurs, ou il faut mettre des policiers, etc. Et donc là, on est à un niveau plus élevé qui est celui de la commune. Et puis, un peu plus vers le plus globalement, eh bien évidemment, il va y avoir d'autres niveaux de responsabilité qui fixent les règles de sécurité pour l'ensemble du territoire le code de la route et tout ça, ce n'est pas à une commune d'établir le code de la route, c'est au niveau national. Et donc, vous voyez, cette espèce de poupée, ces poupées russes qui s'enclenchent les unes dans les autres, c'est ce qu'on appelle ce principe de subsidiarité. Mais toujours aller retrouver l'échelon le plus proche du problème à résoudre, sans qu'un échelon supérieur se mette de vouloir résoudre à la place de l'échelon inférieur un problème qu'il connaît moins bien que lui. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Un autre, le quatrième, c'est la solidarité. Donc, on n'est pas seul, on a absolument besoin de cet échange et de cet appui mutuel. Le cinquième point, c'est la participation, comment dire, permettre à des gens d'agir, c'est d'ailleurs ce que nous allons faire maintenant, je vais vous laisser agir, en clair, vous pouvez vous laisser me poser des questions, et puis peut-être vous posez des questions entre vous, pourquoi pas. Donc, c'est la participation. Le sixième, c'est la destination universelle des biens. Ça veut dire en clair qu'il n'y a pas de valeur absolue en ce qui concerne la terre. Donc, on n'est pas propriétaire de droit divin pour l'ensemble de tout ce qui concerne la propriété. la propriété, elle est soumise à une règle qui est celle du bien commun. Et dès l'instant que la propriété va contre le bien commun, elle doit pouvoir céder le pas. Hein, et donc, destination universelle d'un bien. Ensuite, il y a l'option préférentielle pour les pauvres. On dit aussi quelquefois option prioritaire pour les pauvres. Et puis le huitième point, c'est le soin de la planète et du vivant. Le soin de notre maison commune. Et ceci étant le dernier chapitre, si je puis dire, le plus récent de la doctrine sociale de l'Église, puisque c'est le pape François, son encyclique Laudato Si' aussi, mais qui était déjà bien annoncé par Evangelii Gaudium, le premier écrit qui était simplement une exhortation apostolique, si je me souviens bien, eh bien, le soin de la planète et du vivant s'ajoute à la doctrine sociale de l'Église. Donc, ces différents principes nous amènent évidemment à poser la question de la manière dont nous concevons notre rapport avec le monde agricole, la manière dont nous concevons notre rapport à la nourriture, au gaspillage, à toutes les manières que nous avons pu considérer notre propriété, à la manière dont nous considérons nos voisins, etc. Toutes ces choses-là sont évidemment interconnectées. Et donc, le monde agricole est évidemment évidemment concerné, mais pas seulement, c'est toutes les filières commerciales, les filières professionnelles, la transformation des aliments, etc. Tout ça, ça fait partie de la doctrine sociale de l'Église, peut-être trouver des applications dans tous ces domaines, comme dans tous les autres. Voilà. Écoutez, j'espère avoir pu vous en dire suffisamment, mais l'heure est écoulée. Donc, peut-être que vous aimeriez qu'on discute et peut-être que vous avez des idées, des questions, des choses à ajouter, parce que j'ai évidemment pas été complet.
Merci Yves pour ce brillant exposé.